Votre invitée à présent, Karine Bécard, Adèle Combes, docteur en neurobiologie.
Bonjour Adèle Combes.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez décidé de raconter quelles sont les conditions de travail de nos doctorants, de nos thésards aujourd'hui en France. Précarité, harcèlement, loi du silence, c'est ce que vous révélez dans un livre-enquête qui vient de sortir et dont on risque d'entendre parler. Le titre est sans équivoque « Comment l'université broie les jeunes chercheurs ». Vous-même, Adèle Combes, vous êtes issue de cette filière d'excellence. Vous êtes docteur en neurobiologie, Eric vient de le rappeler. Racontez-nous d'abord ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu et ce qui ne vous a pas plu.
Moi, ce que j'ai effectivement observé sont des dysfonctionnements au sein de certaines équipes que j'ai pu vivre moi-même ou que j'ai pu observer. Ensuite, personnellement, c'est un point de départ dans ce livre-là. Ce n'est pas sur ça que je me focalise, en fait. J'ouvre vraiment sur les doctorants. J'ai vu des choses très positives dans mon institut. J'ai vu des choses très négatives. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on parle souvent des choses positives. Le négatif n'est pas majoritaire, certes. Il représente 20% dans mon enquête de harcèlement moral. Donc, 20%, c'est pas la majorité, mais c'est quand même un chiffre très élevé. C'est un chiffre qu'on retrouve à l'international. D'ailleurs, la revue prestigieuse Nature a fait un sondage en 2019 qui montre que 21% des doctorants vivent du harcèlement moral ou de la maltraitance durant leur doctorat, donc ça, c'est cohérent avec ces chiffres-là.
Mmh. Mais avant de la commencer, votre thèse, je reviens quand même un tout petit peu à vous, je vous assure qu'on va parler de votre enquête après. Quelle idée est-ce que vous vous en faisiez de cette thèse? Ça devait ressembler à quoi? Et pour vous, ça représentait quoi?
Moi, ça représentait une formidable émulsion intellectuelle. C'est tirer l'intellect vers le haut, c'est contribuer à la société, c'est contribuer à la connaissance humaine, c'est obtenir le diplôme le plus élevé du monde. Donc pour moi, la recherche, c'est quelque chose de profondément humaniste. Mmh. C'est quelque chose qu'on retrouve, bien sûr, mais on ne s'attend pas du tout, en tout cas, à un tel niveau d'excellence, un tel niveau de... On imagine, en tout cas... Moi, je viens d'un village, un petit village du sud de la France, je ne connaissais pas forcément le monde universitaire et j'avais une vision très positive et malheureusement on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des situations comme ça, des situations de harcèlement moral, des situations de harcèlement sexuel, une telle précarité financière pour une partie des jeunes chercheurs.
Alors on va en parler. Aujourd'hui, Adèle Combes, vous avez bifurqué, vous avez fait le choix du privé, heureuse ou pas ?
Oui, heureuse. Alors, il y a des problèmes aussi dans le privé, hein, je ne vais pas le cacher, mais très honnêtement, je suis très heureuse dans ce que je fais actuellement.
Alors, comme vous avez bifurqué, pourquoi est-ce que vous avez décidé malgré tout de faire cette enquête? Parce que c'est du passé, j'ai envie de dire, pour vous tout ça. Qu'est-ce qui vous a poussé en 2019 à vous lancer, à la commencer?
Je pense qu'à partir du moment où on se sent émancipé, on a envie d'aider les autres, parce qu'on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, on sait qu'il y a une partie des jeunes chercheurs qui vivent ce qu'on a pu vivre nous-mêmes, ou ce dont on a pu être témoin. Et donc, on a envie d'aider ces personnes-là. Je pense qu'en plus, malheureusement, c'est difficile parfois de le faire de l'intérieur, parce qu'il y a, il peut y avoir des conséquences sur la carrière. Et donc, à partir du moment où on en sort, moi j'ai une émancipation qui est physique, bien sûr, je suis pas là, mais j'ai aussi une émancipation qui est au niveau de la carrière. Donc finalement,
vous avez vu, mais il y a plus de pression. Vous pouvez raconter.
Pression. Non, bien sûr, je peux raconter, mais il y a encore des gens qui y sont, il y a encore des gens qui le vivent, il y a des gens qui se battent de l'intérieur pour que ça change, mais c'est très difficile. Et donc quelque part, un regard extérieur permet aussi cette émancipation pour tout le monde.
Alors vous avez recueilli à peu près 2000 témoignages, pas tout à fait, sur internet, à partir d'un questionnaire que vous soumettiez. Et là, vous écrivez dans votre livre que vous avez découvert des situations, je cite, « inimaginables ». C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce qui vous a peut-être le plus frappé?
Déjà, 20% de harcèlement moral parmi mes répondants, j'ai trouvé ça énorme. Certes, c'est pas la majorité, mais j'ai trouvé ça énorme. Pareil pour les situations à connotation sexuelle ou sexiste, il y a 25% des personnes, majoritairement des femmes, mais pas que, qui répondent à avoir vécu ces situations-là. Le burn-out ou la dépression représentent 33% des répondants. C'est 1 sur 3, c'est également énorme. Ce sont des chiffres qu'on retrouve à l'international, en Belgique, où c'est 32% de risque psychiatrique, notamment des dépressions. Donc ça, c'est clairement, c'est choquant. Et il faut faire quelque chose.
Donc ça, ce sont vos chiffres par rapport aux réponses que vous avez obtenues.
Tout à fait.
Donc si on se résume, ça fait harcèlement moral, beaucoup. Vol de travaux également.
Vol de travaux, effectivement, 21% des personnes qui ont répondu à mon enquête ont déclaré avoir vécu du vol de travaux, en tout cas une appropriation de leur travail.
Par le directeur de thèse.
Majoritairement par le directeur de thèse. Et d'ailleurs, Le Monde va bientôt faire un appel à témoins sur ça, sur le vol des travaux des jeunes chercheurs. Donc oui, c'est un vrai problème également.
Et deux petits points dont vous n'avez pas encore parlé. L'interdiction de prendre des congés, ça paraît tout bête, mais c'est quand même tellement important de pouvoir se reposer de temps en temps. Et puis, le dénigrement permanent.
Oui. Certains jeunes chercheurs vivent une interdiction tout simplement de pouvoir se reposer. Et ça, c'est assez aberrant. Parce que quand on se dit...
Vous l'avez vécu.
Moi, je l'ai vécu. Oui, je l'ai vécu, mais on se dit que c'est rarissime. Et en fait, on découvre que c'est pas rarissime. Les personnes dans mon livre qui ont témoigné, qui ont osé témoigner, me le rapportent. Et c'est assez aberrant parce qu'un esprit a besoin de se reposer. Pour moi, la recherche, le doctorat, c'est un sport de haut niveau. Qu'il soit même dénué de toute précarité financière, même dénué de tout harcèlement, c'est un sport de haut niveau qui demande beaucoup de résilience. Et donc, il faut des conditions adaptées pour mener cette émulsion intellectuelle à son maximum. Et un esprit éreinté ne peut pas être au
meilleur
niveau,
de sa forme. Comment ça marche? Expliquez-nous pourquoi ces directeurs de thèse peuvent tout se permettre.
Alors,
ils ne sont pas contrôlés? Ils ne sont pas surveillés
déjà,
un peu?
Déjà, c'est pas la majorité, et bien heureusement, c'est pas la majorité, mais effectivement, dans les faits, il existe des tentatives de garde-fous. Typiquement, il existe des comités de suivi de thèse qui ont pour but d'évaluer l'aspect scientifique, mais aussi l'aspect humain de ces recherches-là. Le problème, c'est que souvent, ce sont eux-mêmes qui choisissent les membres de ce comité de thèse. Et donc là, on a un problème finalement où il y a très peu d'indépendance. Pareil, d'autres chercheurs vont être témoins de certains abus. Mais étant donné que le réseau est très important dans la recherche, on ne peut pas toujours se permettre, pour sa propre carrière, de se mettre à dos un grand pont ou tout simplement une personne avec qui on collabore.
Mmh. Est-ce que vous avez repéré une petite différence entre les directeurs de thèse et les directrices de thèse? Ou c'est pareil?
Alors, moi en tout cas, je n'ai pas posé cette question dans mon questionnaire, donc je n'ai pas de chiffres à ce niveau-là. En revanche, dans les témoignages qu'on m'a donnés, les directrices comme les directeurs pouvaient être amenées à faire du harcèlement moral.
Mmh. Il y en a certains tout de même qui commencent à être sanctionnés.
Oui, et d'ailleurs c'est hyper positif et moi je pense que ça donne beaucoup d'espoir en fait pour l'avenir. On voit à Lyon, on voit à Paris, il y a des sanctions, en tout cas il y a des enquêtes. Je pense que ça va dans le bon sens et qu'il faut que ça continue. Moi d'ailleurs, il y a des institutions qui m'ont contactée en me disant on a des problèmes chez nous, vous avez fait cette enquête-là, on voudrait en fait que vous la fassiez aussi chez nous. Donc pour moi, le changement peut aussi venir d'en haut et on a besoin. Moi, j'en appelle vraiment à tous les chercheurs titulaires, la majorité de chercheurs titulaires qui sont bienveillants. Aidez-nous parce qu'ils apportent souvent un soutien moral et c'est hyper positif, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant qu'ils prennent parti, officiellement prennent parti en disant « ce n'est pas acceptable ».
Alors, il y a cette enquête, il y a aussi vos solutions, il y en a une douzaine. Quelles seraient selon vous les plus urgentes?
Il faut clairement financer tous les jeunes chercheurs. C'est pas acceptable d'avoir des jeunes chercheurs qui travaillent sans être rémunérés ou des jeunes chercheurs souvent étrangers qui sont même pas payés le SMIC. Donc ça, c'est pas acceptable. Il faut avoir la possibilité d'avoir une vérification que les congés sont effectivement pris. Un dispositif aussi indépendant de signalement, en tout cas de demande de conseil de harcèlement moral ou sexuel et des discriminations qui puissent déjà donner des conseils mais aussi diligenter des enquêtes me semble clairement primordial. Et puis la formation obligatoire pour l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches, une formation clairement à l'éthique, au management, aux relations humaines tout simplement.
Ces solutions, très rapidement, vous les avez soumises à la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal?
Oui, moi, j'ai pas discuté avec Madame Vidal. En revanche, elle a reçu ce livre-là. Et d'ailleurs, j'espère aussi, j'en appelle aussi aux candidats à l'élection présidentielle actuellement. Les chercheurs en France représentent plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, qui aura le courage de mettre dans son programme la rémunération des jeunes chercheurs, de tous les jeunes chercheurs, avec au minimum le SMIC, qui aura le courage de diligenter ces enquêtes-là?
Voilà, c'est ce que vous demandez. Merci Adèle Combes. Comment l'université broie les jeunes chercheurs? Ça vient de paraître aux éditions Autrement. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci.